voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Donc dans cette saison des émissions radio La Voix du Kaizen, on aborde la thématique de l'éducation sous différentes formes, sous différents angles, sous différents aspects. On a entendu dans une première partie de l'émission Lorena. Lorena, ta fille, qui a passé une année, son année du bac, à étudier avec le CNED. Et pendant cette année de césure, vous avez pris le temps, tout ensemble, avec tes deux filles, de partir faire un tour des écoles alternatives dans le monde. Trois pays, le Chili, l'Inde et les États-Unis, dans l'idée de réaliser un projet de documentaire qui va s'appeler Green Teens. Avec moi, Marine Locatelli, donc je vais peut-être te donner la parole pour que tu me présentes d'abord l'idée du projet et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, pourquoi avoir voulu offrir à tes enfants cette possibilité de vivre une expérience différente de la masse.
Le mot premier qui vient, c'est nature. La nature avec laquelle on a tant besoin de se relier, se connecter. J'ai grandi en montagne pendant 20 ans et j'aimais vraiment les forêts, j'aimais vraiment les arbres, j'aimais vraiment les fleurs. Et j'ai toujours emmené mes enfants dans la nature. Marcher, faire du vélo, observer, contempler, s'asseoir, courir, jouer. C'est très présent dans notre vie. Au fur et à mesure que je les ai vus grandir, parce qu'elles ont eu la chance dans leur petite classe d'explorer le système Montessori, et ensuite d'aller dans le système classique parce que c'est cher Montessori. Et en grandissant, je me suis bien rendu compte que ce système ne me convenait pas, mais ne leur convenait pas non plus dans le sens où elles étaient trop enfermées. Et au fur et à mesure de ce qu'elles vivaient, moi j'ai grandi d'une autre façon aussi. Même si j'écrivais des scénarios d'animation, j'avais aussi envie d'écrire d'autres choses. Et puis, lorsque Lorena a eu 10 ans, en fait, je l'ai emmenée dans l'Himalaya pour un rite de passage. Parce que je trouve que dans notre société, il n'y a pas de rituel de passage pour grandir. Et quitter l'enfance pour aller vers l'adolescence en voyageant et en découvrant les autres, le monde, en se reliant à d'autres et dans la nature, toujours, eh bien, tu ouvres tes yeux, ton cœur, d'une toute autre manière. Tu vas vers toi-même, vers la connaissance de toi et vers la connaissance des autres et du monde qui nous entoure.
Mais c'est une question que je me pose. Est-ce que ce qui nous correspond à nous, parents, peut aussi correspondre à nos enfants?
En fait, qu'est-ce que c'est d'être parent? C'est une vraie question. Moi, il y a quelques mots qui viennent. C'est guide bienveillant, accompagnant et aussi passeur. Passeur de belles histoires, passeur de messages, passeur de vie. Et puis, passeur vers la nature. Et nos enfants, quand tu les vois grandir, tu te poses mille et une questions. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est injuste? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire? Comment les... Et puis, tu les vois, ils sont tellement dans le jeu. Ce jeu magique, spontané. Tu as envie que cette spontanéité ne s'efface pas, mais qu'elle soit nourrie ensuite en grandissant. Et que ce regard de curiosité et cette vivacité d'explorateur, elle soit toujours présente. Ça se nourrit. Si toi, parent, tu n'es ni explorateur ni curieux, ça va être difficile de le transmettre. C'est un vrai cadeau, et en étant dans le présent. Donc c'est aussi prendre son temps. Et puis moi qui viens de la danse, eh bien, le corps est toujours très présent et dans la nature, tu es en mouvement, tu marches, tu t'arrêtes, tu es à l'écoute de tes sensations, à l'écoute de tes émotions, à l'écoute de ton ressenti. Et ça aussi, c'est un cadeau de leur apprendre à être à l'écoute d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et de s'émerveiller.
Être à l'écoute d'eux-mêmes, c'est souvent ce que j'entends quand on commence à parler de différents modes alternatifs d'éducation. C'est finalement être à l'écoute de ses émotions, donner une place à l'émotion aux enfants, quel que soit leur âge, pas forcément être dans cette envie de transmettre absolument des compétences, mais de laisser à chacun la possibilité de pouvoir s'exprimer, de ressentir les choses et de vivre les expériences. Tu disais au début de cette émission que tes deux filles avaient d'abord été dans des classes Montessori. où l'enseignement est essentiellement basé justement sur l'expérience, suite à quoi tes enfants ont réintégré le système d'éducation plus classique ou le système public.
L'éducation a vraiment besoin d'être expérientielle. On doit continuer d'être des explorateurs. Or, nos enfants, aujourd'hui, dans le système classique, ne sont pas des explorateurs. Il y a toujours ce système pyramidal avec la connaissance qui descend d'en haut avec le professeur. C'est totalement figé et dépassé. Et si tu continues tout au long de tes années d'enfance à explorer et à être avec des enseignants qui sont des accompagnants, qui ne te disent pas ce que tu dois apprendre, mais où tu vas expérimenter avec eux et surtout avec tes mains, parce que ça manque vraiment d'utiliser ses mains dans notre système, mais tu ne vas pas du tout grandir de la même façon. Donc je pense qu'il faut vraiment réunir des compétences de personnes, des enseignants, des chercheurs, des parents, et des personnes qui se sentent vraiment engagées pour une autre éducation de nos enfants, créer des cercles, comme on le voit avec différentes organisations et différentes associations qui existent aujourd'hui, que ce soit le Printemps de l'éducation ou Lab School Network, SynLab, etc. à Paris, pour que quelque chose se passe. Personnellement, le matériel Montessori, j'en avais à la maison, donc on a continué ce qu'on ne pouvait plus faire en classe Montessori dans une école. Donc c'était toujours très présent. On a toujours utilisé beaucoup nos mains à la maison. Les filles, elles aiment cuisiner, elles savent cuisiner, elles n'ont pas peur de cuisiner, d'essayer de prendre un couteau, de couper, hacher. Finalement, quand tu fais de la cuisine, tu fais aussi de la chimie. Donc je trouve ça intéressant. Dernièrement, Florane, c'était faire de la pâte à péter. Et avec des copines qui avaient fait n'importe quoi, ça ne marchait pas. Et elle a vraiment dosé bien ses ingrédients, ça a super bien marché. Donc il y a tellement de choses à faire. Je reviens vers le mot nature dont je te parlais au début. Toutes les écoles que j'ai choisies pour Green Teens, elles sont en lien avec la nature. Ce lien avec la nature tout le temps pour apprendre du vivant et se relier au vivant. Et quand tu utilises tes mains, tu te rends compte que tu es créateur et pas que dans la tête. Et c'est trop important d'utiliser ses mains. Soit tu peux être créateur en dessinant, en faisant de la céramique, de l'électricité, prendre soin des animaux, aller dans ton potager. Mais tes mains, comme je le dis toujours, nos étoiles à cinq branches, alors elles sont vraiment vivantes. Et se relier au corps, c'est vraiment important.
Tu l'as dit, Green Teens. On va s'intéresser maintenant à ce projet. Donc, dans Green Teens, tu as voulu retrouver des écoles où le lien à la nature, le lien à l'environnement était présent. Comment tu as dessiné ce projet? Comment est-ce que tu as réfléchi à ce projet? Parle-moi un peu de la genèse, de l'origine.
Ce que j'aimerais juste te dire aussi au départ, c'est que mes enfants étaient très souvent absents à l'école, et au collège, et au lycée. Donc ça, t'imagines, c'est pas très bien vu. Mais elle travaillait bien, donc on te fait moins de réflexion quand les enfants travaillent bien. Lorena, j'ai plus compté ses heures d'absence en première. C'était une catastrophe, le programme et les absences des enseignants. Et quand elle m'appelait pour me dire, j'ai 4 heures où il n'y a rien à faire, j'ai dit, rentre à la maison. Et puis après, tu ne retournes pas en cours, tu peux travailler à la maison. Donc ça, si tu veux, ça a commencé à me dire, oh là là, et puis il y a Florine qui va rentrer en sixième, et comment ça va se passer cette sixième? Et dès qu'elle est rentrée en sixième, ça a été, maman, je m'ennuie, maman, je m'ennuie, maman, je m'ennuie. Et elle n'avait pas de temps suffisant pour elle pour dessiner, pour écrire, comme elle passe beaucoup de temps à écrire, à dessiner. Et là, j'ai dit, non, là, c'est plus possible. Entre Lorena qui était dans sa première, où elle était tout le temps absente, et Florine en sixième, où... Je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Là. Je peux pas la laisser comme ça dans ce système. Ses dons vont s'effacer. Elle va pas les nourrir. Alors, j'ai commencé à écrire ce projet, en fait. Parce que j'étais déjà engagée dans le mouvement du Printemps de l'éducation auprès d'Antonella Verdiani, que j'apprécie beaucoup. Et j'ai commencé à écrire, en fait, ce projet parce que j'ai regardé ce qui se passait ailleurs. Bon, évidemment, j'avais vu le film, c'était avant, je voyais bien qu'il y avait ce film demain qui allait sortir, mais bon, moi déjà, j'étais engagée dans comment éduquer nos enfants autrement. Et puis, j'avais aussi animé des ateliers de pleine conscience dans des écoles publiques et privées. J'avais animé des ateliers pour des enseignants, méditation, connaissance de soi. Et donc, j'ai cherché autour du monde des lieux où les adolescents, parce qu'il s'agissait d'adolescents, étaient éduqués autrement, grandissaient autrement. Parce que pour les petits, tu trouves toujours des lieux alternatifs. Mais pour les grands, il n'y a rien. Ou si peu. Donc je me suis vraiment intéressée aux lieux alternatifs d'éducation pour les plus grands. Et puis, j'en ai trouvé. Mais après, j'ai fait des choix. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir des oui d'écoles qui sont loin. Et puis j'avais pas envie non plus d'aller dans les pays d'Europe du Nord parce qu'on en parle souvent. Et puis qu'il y avait déjà des choses qui avaient été filmées et faites. Alors je me suis tournée vers le Chili, vers l'Inde et puis vers les États-Unis. J'ai pas fait exprès, mais ce sont des lieux qui ont été créés par des femmes. Toutes ces personnes, et puis il y a aussi des hommes formidables, des enseignants masculins formidables. Toutes ces personnes, en fait, elles étaient vraiment connectées à la nature. Et elles avaient vraiment envie que les adolescents grandissent bien reliés à la nature pour mieux se connaître.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Première étape, proposer à tes filles de vivre des expériences fortes dans l'éducation alternative à l'étranger, mais aussi cette envie d'en faire un documentaire. Il y a tout un projet de film derrière.
Oui, en fait, Green Teens, comme je suis scénariste depuis presque 25 ans, j'ai écrit beaucoup de scénarios d'animation pour la télévision, pour le cinéma avec Kirikou et les bêtes sauvages, j'avais envie de faire un film d'une autre façon. Bon, évidemment, je viens pas du documentaire, mais quand tu es scénariste et que tu as beaucoup travaillé à écrire des histoires, les passerelles, elles se créent naturellement. Et puis j'avais vraiment envie aussi que dans ce documentaire, on ait quelque chose de ludique, tu vois, que ce soit très vivant grâce aux adolescents, qu'elles soient pleinement actives avec d'autres adolescents d'ailleurs, qu'on les voit vivre ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas au départ comment ça va se passer. Et j'avais aussi envie que le côté artistique soit très présent. Donc Florane, qui dessine tout le temps, eh bien tu la vois régulièrement dessiner dans ce documentaire. Ce sont ces temps de pleine conscience. Et en fait, elle s'inspire de ce qui était vécu au quotidien pour dessiner des ambiances, des atmosphères. Ce qui était aussi très important dans tous ces lieux, c'est qu'en fait, la paix est très présente. Les adolescents sont, on va dire, coachés pour être des gardiens de paix ou entre eux s'entraider. Vraiment, il y a une éducation mutuelle qui est très présente. Une charte avec ce lien à la nature, ce lien à prendre soin de l'autre, à prendre soin de la nature, à prendre soin les uns des autres. Et puis ça ne s'apprend pas comme ça de manière automatique. Ils ont 4 ans à vivre ensemble au sein de cette communauté pour faire grandir cette flamme de paix, leurs engagements pour eux-mêmes et pour leur famille, pour la terre. Connaître les plantes médicinales, c'est incroyable comme ils les connaissent bien. Donc c'est vraiment touchant de les voir grandir comme ça. Et puis aujourd'hui, à la Escuela Agroecológica du Chili, c'est un enseignement sur 4 ans. Mais l'équipe d'enseignants souhaite que ça soit maintenant sur 6 ans pour approfondir encore tout ce qu'on leur transmet. Et puis ce sont aussi, tous ces lieux sont des lieux de formation. Tu as énormément d'enseignants de tout le Chili qui viennent se former à la Escuela Agroecológica parce que les jeunes enseignants qui ont une trentaine d'années se rendent bien compte que le système... il est à bout de souffle et qu'il est nécessaire d'enseigner aux enfants différemment. Et donc ils viennent se former là. Et donc ils repartent engagés, ils repartent motivés. Ce que j'ai peut-être omis de dire, c'est que c'est un lycée public, c'est un lycée d'État, c'est pas un lycée privé. Donc... La fondatrice, elle a créé aussi une fondation. Et avec son équipe, ils vont chercher des fonds pour que l'école ne manque pas d'argent. Et donc, tu as soit des entreprises étrangères, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, qui donnent de l'argent pour que cette école puisse continuer d'exister et que les enseignants viennent se former gratuitement.
Dans une autre émission, on a donné la parole à Lorena, qui a vécu cette expérience. J'aimerais que tu me donnes ta vision de ce que tu as été en tant que maman observatrice aussi, de la manière dont tes enfants se sont acclimatés dans l'expérience que tu leur as permis de vivre, parce qu'on parlait d'enseignement basé sur l'expérience. Finalement, c'est une expérience qu'ils ont pu vivre à travers ce projet-là. J'aimerais que tu me parles de ton regard. Comment est-ce que tu les as vus évoluer, tes filles?
Au départ, quand tu quittes le monde connu pour aller vers ce grand inconnu, il y a un temps de pause. Et pour ma fille aînée, Il lui a fallu, je dirais, 2 semaines avant de vraiment intégrer la classe dans laquelle on l'attendait. Elle n'y est pas allée tout de suite. Elle avait besoin d'observer un peu de l'extérieur comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Elle avait besoin d'un temps d'adaptation. Florane, elle était peut-être un peu inquiète. Elle a plongé plus vite. Elle aimait beaucoup aller en sport avec eux parce qu'elle est très physique. Donc, ils ont un très beau mur d'escalade. Donc, elle aimait bien aller grimper au mur d'escalade, courir, marcher avec eux, faire un peu d'acro-sport. Mais surtout, aller avec le céramiste dans sa magnifique petite maison où elle pouvait créer tout ce qu'elle souhaitait, quoi. Ça, c'était formidable. Pour Lorena, une fois qu'elle est vraiment rentrée dans sa classe, alors elle n'en est plus ressortie, je veux dire. C'est pas qu'elle a été enfermée dans la classe, mais c'est qu'elle a découvert d'autres adolescents qui l'ont hyper bien accueillie. Et elle était ravie de vivre avec ces adolescents qu'elle a souvent dit attentionnés. Elle les a vraiment perçus très attentionnés. Et puis, y avait beaucoup de joie, en fait, dans ces différentes classes. Ça a changé vraiment d'atmosphère par rapport à ce qu'elle vivait en France. Mais ici, ils sont très accompagnés dans ce lycée. Tu as une thérapeute qui est là et avec laquelle ils peuvent venir discuter quand ils veulent. Ce n'est pas du tout une psychologue classique comme on les rencontre ici en France. C'est une femme qui a un parcours de développement personnel et de méditation particulier, qui connaît aussi les fleurs de Bach. Et donc, du coup, ils vont passer du temps à discuter avec elle et ça leur fait du bien. Et ils savent qu'elle est là tout le temps pour eux. Et ça, c'est formidable. Et ils y vont, parce qu'ils savent que c'est pour les accompagner.
Leur cheminement, leur quotidien a été filmé?
Eh bien, dans Green Teens, tu vas découvrir 2 adolescentes qui explorent un autre monde de l'éducation et qui vivent au quotidien avec des adolescents qui grandissent complètement différemment d'ici. Alors comment ça se passe? D'un pays à l'autre, c'est très différent. On ne le savait pas à l'avance, même si j'avais écrit en partie le projet. On a vraiment laissé, nous aussi, pour une fois, tu vois, moi qui suis scénariste, j'ai pas du tout écrit un scénario comme je fais d'habitude, début, milieu et fin d'histoire. J'avais aussi envie de me laisser porter par ce qu'on allait découvrir. Et comme ça, on a eu plein de bonnes surprises. Il y a une totale confiance et un total respect entre adolescents et enseignants. Une relation, je dirais, amicale. On n'a pas l'habitude ici de voir un prof qui va soit t'embrasser, soit te prendre dans ses bras si ça va pas, ou te donner une bonne tape dans le dos amicale, jouer au foot avec toi, rigoler, faire un baby-foot, etc. Ça, c'était le quotidien au Chili. C'est frappant. Mais ce qui était très chouette à filmer, oui, il y a eu ces duos adolescents-enseignants et ce que chacun s'était apporté mutuellement pendant leurs années d'études. Et ça, vraiment, c'est fort. C'était très touchant.
Marine Locatelli, tu es donc scénariste. Là, tu t'es lancée dans la réalisation de ce documentaire Green Teens. J'aimerais, pour qu'on termine cette émission radio, que tu me dises ou que tu nous emmènes dans l'école de nos rêves, dans l'école de tes rêves. Comment est-ce que serait la plus belle des écoles? Qu'est-ce qui s'y passerait? Qu'est-ce qu'on y enseignerait? Et comment seraient les enfants qui en sortiraient?
Waouh, quel programme! Je rêve d'une école où les enfants puissent grandir en étant connectés à la nature, bien reliés à leurs racines, où le corps va avoir une place primordiale, où tu pourras danser, méditer, faire du théâtre, t'exprimer, oser, être inventeur, explorateur. Et en fonction de tes dons et de tes qualités, eh bien, qu'elles soient nourries, qu'elles puissent grandir au contact avec les autres, que les enseignants soient des accompagnateurs qui ont été formés d'une autre façon que ceux qui sont formés aujourd'hui ici en Europe, en France en particulier. Oui, que les enseignants, on leur offre un autre cadre de formation et d'enseignement, qu'ils puissent être beaucoup plus libres et que finalement notre système éducatif soit tourné vers l'empathie, l'altruisme et prendre soin de soi, des autres et de la planète.
Merci Marine.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.